enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Aujourd'hui, on va continuer, troisième message sur une série de les réalités de la nouvelle création. Ici, on va voir aujourd'hui encore une fois que connaître Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de la religion, même aujourd'hui, il y a souvent des personnes qui posent la question, mais c'est quoi la différence entre ta religion et notre religion? Et j'aime toujours dire que, premièrement, moi, je n'aime pas considérer que c'est une religion. Combien de vous? Vous avez eu la même question? Hein? Ce n'est pas une religion, c'est une relation personnelle et intime avec une personne, avec Dieu, le Créateur de l'univers, n'est-ce pas? Et si on est en relation avec Dieu, si on est en relation avec Jésus-Christ, la Bible dit en 2 Corinthiens 5, 17, c'est notre texte clé pour la série, que si quelqu'un est en Christ, tout le monde est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et comme j'ai déjà dit, il y a quelques traductions qui disent que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle espèce de création qui n'a jamais existé auparavant. Nouvelle espèce de création qui n'a jamais existé auparavant. Donc, cela veut dire qu'on n'est pas juste des personnes qui ont essayé d'adopter un nouveau code d'éthique ou être plus gentil avec les autres, essayer de suivre les règles d'or, etc. Mais si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Il y a un changement intérieur qui s'est fait par la puissance de Dieu. Et la personne que j'étais avant, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Mais il faut connaître la réalité de cela parce que il y a beaucoup de chrétiens que même s'ils sont nés de nouveau, même s'ils sont les nouvelles créations, ils vivent pas dans la lumière de cette vérité. Selon eux, tu poses la question, tu les entends parler même, combien des croyants vont dire, mais moi je ne suis qu'un pécheur sauvé par la grâce. Est-ce que vous avez entendu cela? Je suis juste un vieil pécheur sauvé par la grâce. Franchement, combien de vous avez entendu cela? Moi je l'ai entendu souvent. Oui. Donc, je suis juste un pécheur sauvé par la grâce. Mais savez-vous que ça se peut pas? Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est que j'étais autrefois un pécheur. Autrefois, j'étais séparé d'avec Dieu. Autrefois, j'étais mort dans mes transgressions. Autrefois, je connaissais pas Dieu. Autrefois, j'étais destiné pour l'enfer, mais Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il m'a offert un don. Et par la grâce, je suis sauvé, par le moyen de la foi. C'est pas par mes œuvres, je ne peux pas me vanter. Mais autrefois, j'étais un pécheur, mais aujourd'hui, je suis une nouvelle création. Aujourd'hui, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle nature. Amen. J'ai un cœur nouveau. Les enfants ont fait une opération d'un cœur ouvert la semaine passée dans la, je sais pas si vous étiez au courant, mais ils ont eu une opération dans les héros en herbe la semaine passée. Parce que le gars avait besoin d'un nouveau cœur. Hein, ils ont ouvert le monsieur, ils ont utilisé toutes sortes d'outils de puissance, par exemple. C'est, en fait, c'était le contracteur qui a fait cela. Ils se sont trompés. Mais ils ont sorti toutes sortes de choses et un poule mouillé et tout. Et ils ont sorti une roche, une pierre, gros de même. Et ils ont mis un nouveau cœur. Mais qu'est-ce qu'on sait? C'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne pour vrai. Et c'est ça qu'on enseigne aux enfants. On ne peut pas faire quelque chose physiquement pour enlever un cœur pierreux, pour enlever un cœur qui est infecté par le péché. Il faut que Dieu fasse quelque chose surnaturellement. Amen. Il faut passer de la mort à la vie. Il faut passer des ténèbres, être né dans le royaume de lumière. Il faut avoir un changement de nature. Autrefois, j'étais pécheur, mais aujourd'hui, je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 3. On va lire cela dans vos notes. Nous tous aussi, Nous étions, souligne le mot étions, parce que c'est pas présent, c'est passé, n'est-ce pas? Autrefois, nous étions de leur nombre et nous vivions. Autrefois, mettez un cercle sur cela. Autrefois, on va dire ensemble, autrefois. Donc là, on voit, on ne parle pas d'aujourd'hui. On parle d'autrefois. Autrefois. Amen. C'est comme quelqu'un qui est marié aujourd'hui peut dire, autrefois, j'étais célibataire. Mais vous n'êtes plus célibataire. Amen. Donc, c'est comme une mère qui a des enfants, qui elle peut dire, autrefois, j'avais pas d'enfants, mais maintenant, c'est plus le cas. Aujourd'hui, vous êtes mère. Amen. Autrefois, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, tu peux souligner le mot chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, souligne le mot pensée, et nous étions par nature, souligne le mot nature, des enfants de colère comme les autres. Donc on parle d'autrefois. Autrefois, on avait un problème dans notre chair, dans notre corps physique, c'était infecté par le péché, et ça on va voir, c'est toujours le cas. Et autrefois, on vivait selon les pensées qui n'étaient pas correctes non plus. On voit ici l'esprit, la nature, l'âme, les pensées, et le corps, la chair. L'esprit, l'âme et corps. Autrefois, tout notre être vivait pour les ténèbres. On vivait autrefois pour le diable. On vivait autrefois pour soi-même. On vivait dans le péché autrefois. Mais si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes une nouvelle création. Amen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus de leur nombre. Amen. Maintenant, je suis dans un autre nombre. Maintenant, je suis dans un autre un royaume, dans une autre famille. Mais je veux vraiment aujourd'hui mettre l'accent sur ce mot « nature ». Parce que c'est là où ça commence. Souvent, on veut voir des changements au niveau du corps, les actions de notre corps. On veut faire des choses comme Dieu veut qu'on les fasse. Mais si on veut arriver à faire quelque chose de bien avec notre corps, il faut avoir des bonnes pensées. Et si on veut avoir des bonnes pensées, il faut avoir un cœur qui est changé par Dieu. Vous comprenez la différence? Qu'est-ce qui se passe dans la religion? La religion essaie de changer une personne de l'extérieur. On donne une liste des règles. On donne une liste des choses à faire et à ne pas faire. Fais ceci, fais pas ça. Mais ça marche pas comme ça. Il faut avoir un changement du cœur. Et si la nature d'une personne est changée, il est capable de changer sa façon de penser. Et si mon cœur est bon et mes pensées sont bonnes, mes actions vont suivre. Donc, ça commence toujours dans le cœur avec la nature d'une personne. Autrefois, nous étions par nature des enfants de colère. J'ai regardé le mot nature dans le dictionnaire biblique et ce mot veut dire littéralement la somme des propriétés innées et des pouvoirs par lesquels une personne diffère des autres. Ce sont les signes distinctifs de naissance. Soulignez cela, les signes distinctifs de naissance. Parce que là, on voit que dans le naturel, c'est comme ça aussi. On peut regarder le royaume des animaux et il y a certains, si un zèbre va accoucher un autre zèbre, on peut pas être pas mal sûr et certain que le bébé zèbre va ressembler à ses parents, n'est-ce pas? Ça serait pas du tout normal, ça serait contre nature pour le zèbre de donner naissance à un kangourou. Vous êtes d'accord? C'est la même chose, hein? Pour les êtres humains, on va donner naissance à un autre être humain, n'est-ce pas? On ne donne pas naissance à un zèbre. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a certaines choses dans la nature qui ne peuvent pas être changées. Et on voit cela, les traits caractéristiques naturels, la force, la férocité et l'intraitabilité des bêtes. Encore, comme je dis, on ne peut pas changer la nature d'un zèbre. Un zèbre, c'est un zèbre et un zèbre va donner naissance à un autre zèbre. Amen. Un kangourou, c'est un kangourou. Un kangourou va donner naissance à un autre kangourou. On peut avoir les petits changements dans une espèce, des traits qui sont changés, mais il y a certaines choses dans la nature d'un animal qui ne peuvent pas être changées. Et c'est la même chose dans la nature d'un être humain. nous avons dans notre cœur une nature. Et la nature que nous l'avons reçue de notre Père dans le domaine spirituel. Quand nous sommes venus au monde la première fois, il y a certains traits que nous avons, on peut dire, hérités de nos parents naturels. Mais il y a certains traits qu'on a hérités aussi de nos parents spirituellement parlant aussi. Et comme on sait, Romains 3, 23 dit qu'à tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On sait que l'apôtre Jean dit que tous sont, le monde entier est sous la puissance du malin. N'est-ce pas intéressant qu'il n'y a pas une personne sur la planète qui est venue au monde qui n'est pas infectée par le péché? Et regardons même qu'est-ce que Jésus a dit. Bien intéressant, Jean chapitre 8, verset 44. On parle de la nature que nous avons dans notre cœur. Jean 8, 44 dit, « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. » C'est Jésus qui parle. « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Donc, tout de suite, Jésus est en train de dire, « Vous autres, vous avez un Père, mais moi, j'ai un Père aussi. Et mon Père, c'est pas le même que votre Père. Nous avons tous les deux les Pères différents. » Et je sais qu'aujourd'hui, notre monde est tellement, tellement malade qu'ils vont même faire des émissions à la télévision pour... Et c'est presque un jeu de savoir c'est qui est le papa de quel bébé. Et ils font les tests de ADN pour... ADN pour prouver cela. C'est comme, j'ai vu ça l'autre jour quand j'étais au gymnase et c'est affreux. Et c'est comme, il y a toute la foule qui attend les résultats. C'est qui est le papa? Ça, c'est malade. Vous êtes d'accord? Mais regarde bien. Il y a quelque chose ici que Jésus est en train de dire. Il parle aux pharisiens. Et c'est intéressant. Il parle aux personnes religieuses, n'est-ce pas? C'est la religion. Il dit que mon Père et votre Père ne sont pas le même Père. Et il continue. Plus tard, il dit, et vous avez pour Père le diable. Oh, c'est gentil, Jésus. Merci pour le compliment. Vous avez pour Père le diable. Je vous suggère pas d'aller au travail demain matin et dire à vos collègues, vous avez pour Père le diable. Si vous êtes le Fils de Dieu et, peut-être vous pouvez vous permettre d'agir de même. Mais normalement, à moins que l'onction de Dieu est vraiment sur vous et vous avez cela dans votre cœur, c'est peut-être pas la meilleure stratégie à suivre. Mais pour Jésus, c'est exactement ce qu'il fallait dire. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais je veux que vous voyez la réalité, la dure réalité, c'est que vos collègues au travail, s'ils ne sont pas encore en Jésus-Christ, c'est vrai pour eux aussi. Ils ont pour père le diable, et la plupart ne savent même pas. Pourquoi? Parce que le diable se déguise comme un ange de lumière. La plupart des gens, ils veulent être gentils. Ils veulent être les citoyens responsables. La plupart des personnes qui habitent dans notre ville, ici à Drummondville, ils se considèrent comme des bonnes personnes. Vous êtes d'accord? Les pharisiens se voyaient comme des bonnes personnes aussi. Penses-tu que les pharisiens se voyaient comme des gros méchants? Non, ils faisaient des bonnes choses. Nous sommes le plus religieux de tous. On connaît la parole de Dieu, on connaît les Écritures. Ils étaient sincères sûrement, mais sincèrement dans le champ. Sans le savoir, ils étaient les enfants du diable. Et ils parlaient selon la nature du diable. Dans le cœur de chaque pharisien, il y avait la nature du péché. Mais ça, c'était vrai aussi pour tout le monde. Ça, c'était le cas pour moi aussi. Autrefois, j'avais la même nature que eux. Autrefois, mon père, c'était le diable, spirituellement parlant. Et laisse-moi vous dire, regardez-moi, autrefois, vous aviez comme père le diable. Oh, comment est-ce que vous pouvez m'insulter comme ça? Je ne suis pas en train de vous insulter, je suis juste en train de dire la vérité, hein? Et ce n'est pas de votre faute. On ne choisit pas notre père la première fois, vous êtes d'accord? Dans le naturel, on choisit pas notre père, à moins qu'on décide d'être adopté. Moi, j'ai un cousin qui a été adopté et il a choisi, il a demandé au mari de sa mère de l'adopter. Est-ce que tu peux m'adopter? Je veux. Il voulait changer de père. Parce que c'est ça. Mais la première fois, on n'a pas le choix. Quand vous êtes venu au monde, vous n'avez pas choisi d'être pécheur, vous-même, de votre propre gré. Cela a été comme imposé sur vous. Pourquoi? À cause de votre arrière-arrière-arrière-arrière-grand-papa, Adam, et votre arrière-arrière-arrière-grand-maman, Ève, eux autres, ils ont décidé de désobéir à Dieu, et ils sont morts spirituellement. Et ils ont donné l'autorité que Dieu les a confiée à Satan, et ils sont devenus esclaves de Satan. Et tous ceux qui sont nés depuis Adam et Ève sont nés dans ce monde pécheurs, séparés d'avec Dieu et esclaves de Satan. Veux pas, même si vous êtes gentil, même si vous êtes vraiment sympathique, même si vous n'avez jamais volé une banque, vous n'avez jamais fait quelque chose de grave aux yeux de la loi, vous êtes quand même pécheur et vous êtes enfant du diable. Ça, c'est ce que Jésus dit, n'est-ce pas? C'est assez sérieux. Mais voici la bonne nouvelle. Hein? Ça, c'est assez pour le côté négatif. Mais voici le côté positif. Le côté positif, c'est que Jésus a payé le prix. Jésus est devenu celui qui n'a pas connu le péché et devenu péché afin qu'on puisse devenir la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et si on accepte Jésus comme sacrifice et comme substitut, on est passé de la mort à la vie. En fait, la Bible dit que nous sommes transportés du royaume des ténèbres et né dans le royaume de son Fils bien-aimé. N'est-ce pas merveilleux? Et c'est Dieu lui-même qui nous a transportés. Il nous a arrachés du royaume des ténèbres. Je ne suis plus esclave de Satan. J'ai changé, comme on a dit il y a quelques semaines, j'ai changé de master, n'est-ce pas? Vous vous rappelez les cassettes? Quand on change de master, tout ce qui est à l'intérieur du master se trouve à l'intérieur du copie. Et quand on fait une copie du master, c'est ça qu'on va avoir. Mais autrefois, on avait tous le diable comme master. Mais maintenant, on a changé de master. C'est Jésus qui est notre master. Et tout ce qui était en Jésus est maintenant en nous. Gloire à Dieu. Regardons bien. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Vous savez, c'est encore plus puissant quand on se souvient de la réalité qu'autrefois nous étions enfants du diable. Je n'étais pas juste enfant de Roger Taylor, qui est mon père biologique, mais j'étais enfant autrefois de Satan aussi. Mais quel amour le Seigneur nous a témoigné, quel amour que j'ai reçu, que maintenant je suis appelé enfant de Dieu. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? On va continuer. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Mais regardons bien, 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Quiconque est né de Dieu. Combien de vous êtes né de Dieu? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence, soulignez le mot semence, de Dieu, demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est quelque chose, n'est-ce pas? C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Soulignez ces deux phrases, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et il y a moyen de distinguer entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et la façon qu'on peut distinguer, il faut checker la nature. Amen? Est-ce que vous êtes capable de distinguer entre les enfants du zèbre et les enfants du kangourou? Est-ce que vous aurez de la misère à distinguer entre les deux? Non, la différence est flagrante, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que je suis en train de dire ce matin? C'est que la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable devrait être flagrante. Ça ne devrait pas prendre une scientifique et une enquête pour savoir est-ce que c'est un enfant de Dieu ou un enfant du diable. On devrait être capable de voir. Et quelle est l'évidence qu'on devrait voir? L'évidence, c'est qu'on va voir la nature de notre Père reproduite chez nous. On regarde le monde et on voit la nature du diable reproduite chez eux. Mais dans l'Église, ceux qui connaissent Jésus, on devrait voir la nature de notre Père reproduit en nous. Pourquoi? Ceux qui connaissent Dieu ne peuvent pas même pécher, pratiquer le péché. Le mot-clé, là, c'est pratiquer. Parce que ça donne ça donne l'impression, où on voit dans cela, c'est que quelqu'un qui est vraiment né de Dieu et dont la semence de Dieu réside en lui ne peut pas continuellement, volontairement, continuer à pécher. J'ai pas dit qu'une personne qui est née de nouveau et qui a la semence de Dieu en lui ne peut pas tomber à l'occasion dans un péché. Mais quand il tombe dans un péché, c'est plus comme autrefois. Autrefois, il faisait ça et c'était normal. Autrefois, on vole ou on ment et c'est normal. C'est ma nature de mentir. Maintenant, si je mens, si je fais quelque chose de pas correct, c'est comme, oh, wesh, il y a quelque chose qui va pas ici, parce que ça, c'est pas moi, c'est plus moi. Vous savez de quoi je parle? On n'est plus bien avec ses péchés. Il y a quelque chose dans notre nature qui dit, ça, c'est pas le vrai toi. Tu devrais pas agir comme ça. Amen? Mais regardons, c'est bien important ici, qu'est-ce qu'on est en train de dire. Et, verset 10, comment est-ce qu'on peut distinguer, c'est quoi la différence flagrante, la nature de Dieu qu'on doit voir? Verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. En fait, Jésus a dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. La différence majeure qu'on devrait voir chez les chrétiens, c'est que nous avons l'amour de Dieu répandu dans notre cœur. Nous aimons Dieu et nous aimons nos frères et nos sœurs dans la famille de Dieu. Ça, c'est la différence majeure qu'on devrait être capable de voir et qui devrait nous distinguer. Amen. Alléluia. Regardons bien. 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Parce que Dieu est amour. Tout le monde dit Dieu est amour. C'est-à-dire, si Dieu est amour et Dieu est mon Père, et la semence de mon Père est à moi, on sait tous comment ça fait, on sait tous ici comment faire un bébé, n'est-ce pas? On s'apprend une semence. Ça prend une semence, et la semence ne vient pas de la mère, la semence vient du Père, n'est-ce pas? Si la semence est plantée, le bébé qui va naître va avoir la nature du Père. Sur le plan naturel, je parle. Amen? Et c'est la même chose dans l'esprit. Si Dieu est notre Père, Dieu a contribué une semence. Et nous sommes nés grâce à cette semence. Amen? C'est quoi la semence que Dieu a donnée? Ici, on le voit en 1 Pierre chapitre 1, verset 22. On parle des réalités de la nouvelle création et la nouvelle nature que nous avons reçue en Jésus-Christ. Et en purifiez vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. Donc, on voit encore que la nature de Dieu, c'est la nature d'amour, n'est-ce pas? Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque, pourquoi? Puisque vous avez été régénérés, ou nés de nouveau, on peut dire, non par une semence corruptible, mais par une semence, souligne encore le mot semence, incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, c'est quoi la semence qui a donné naissance à chacun de nous spirituellement? La semence, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce n'est pas une chose. La parole de Dieu, c'est une personne. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole s'est fait chair. On parle de qui? On parle de Jésus, le Fils de Dieu qui s'est fait chair. Jésus est la parole de Dieu. La Bible dit que nous sommes régénérés par une semence incorruptible. On parle ici de Jésus. Jésus est appelé une semence. Une semence qui est plantée dans notre cœur. Amen. Et c'est une semence incorruptible qui ne peut jamais plus mourir. Que personne ne peut enlever ou arracher. Une fois que la semence est plantée dans votre cœur, il reste dans votre cœur. Amen. C'est une semence surnaturelle. C'est pas une chose, c'est une personne. C'est Jésus. Et quand la semence est plantée en nous, qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est de savoir que nous sommes devenus une seule plante avec lui. C'est que l'Esprit de Dieu et notre esprit sont fusionnés ensemble maintenant. Et la nature de Dieu est devenue ma nature. J'ai la nature de Dieu à l'intérieur de moi. Vous savez que, je pense que je l'ai encore ici, je l'ai mis dans ma poche ici. Hier, je suis allé avec mes enfants au verger du Maine. On a voulu cueillir des pommes, juste pour le fun, parce qu'on aime manger les pommes aussi. Vous savez c'est quoi? Un pépin d'une pomme que nous avons enlevé de l'arbre nous-mêmes. C'est tout petit, n'est-ce pas? Mais savez-vous, qu'est-ce que vous voyez? Il voit tout, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un arbre. Les racines, l'écorce, les branches, les feuilles, les bourgeons, les fruits. Combien? Ça peut, juste un pépin peut produire un arbre au complet. Et un arbre au complet peut produire, je ne sais pas, j'aurais dû demander combien de pommes dans une saison qu'un pommier peut produire. Est-ce que quelqu'un sait, par chance? C'est beaucoup, n'est-ce pas? Juste là, hier, on a vu les petits arbres avec des centaines de pommes. Et à l'intérieur de chaque pomme, il y a, je sais pas, 5, 10 pépins encore. Et chaque pépin représente un arbre qui porte à chaque saison des centaines, peut-être dans la vie d'un arbre, des milliers de pommes. Il y a sûrement le potentiel d'avoir des millions de pommes juste ici dans ma main. Mais si je garde ça dans ma poche, ici, dans ma poche, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Rien. Mais qu'est-ce que je veux que vous compreniez? C'est que beaucoup des gens, ils voient juste une petite affaire, ils ne voient pas grand-chose. Mais moi, je vois un potentiel d'un fruit multiplié. Je vois les arbres. En fait, qu'est-ce qu'on veut souligner ce matin, c'est que toutes les caractéristiques, la nature d'une pommier se trouve dans la semence. Amen? Les choses qui ne peuvent pas être changées, la nature d'une pommier se trouve dans la semence. Et la nature de Dieu se trouve en Jésus-Christ. Les choses qui ne peuvent jamais être changées. Dieu est amour, ça ne changera jamais. Dieu est fidèle, ça ne changera jamais. Dieu est généreux, ça ne changera jamais, n'est-ce pas? Dieu est celui qui guérit, ça ne changera jamais. Il y a la nature de Dieu. Il est Jéhovah, c'est que nous, l'Éternel, notre justice, ça ne changera jamais. Il est Jéhovah aussi, Jireh, l'Éternel qui va pourvoir, ça ne changera jamais. La nature, toutes les caractéristiques de Dieu se trouvent en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a été planté dans votre cœur sous forme de semence. Mais une semence, peut-être on dit, mais moi je ne vois pas beaucoup de fruits dans ma vie. Je ne vois pas l'amour. Je ne vois pas de patience. Je ne vois pas la fidélité. Je ne vois pas beaucoup de maîtrise de soi dans ma vie. Mais c'est quoi le problème? C'est parce que peut-être la semence qui a été plantée dans votre cœur n'a jamais été arrosée. Vous n'avez jamais donné la chance à cette semence de grandir. Jésus est en vous, il est dans votre cœur comme ça. Et vous avez besoin d'apprendre comment activer et comment saisir la nature de Christ qui est en vous. C'est pas parce que vous n'êtes pas sauvé, c'est pas parce que Jésus n'habite pas en vous, mais c'est un peu dur à voir Jésus en vous maintenant. Des fois, on se regarde, on dit, c'est un peu dur à voir Jésus en moi aujourd'hui. Est-ce qu'il est vraiment là? Oui, il est là, mais regarde, c'est sous forme de pépins, là. Parce que peut-être la seule chose que vous avez faite, vous avez prié pour demander, Seigneur, je veux recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur, je confesse avec ma bouche, je crois dans mon cœur, et vous êtes né de nouveau, vous êtes passé de la vie, de la mort à la vie, vous êtes une nouvelle création, mais Jésus est en vous sous forme de semence que vous avez besoin de développer. 2 Pierre chapitre 1, verset 2, en bas de page 1 de vos notes, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Regarde bien, par la connaissance de Dieu. Mon peuple périsse faute de connaissance, la Bible dit. Comme sa divine puissance nous a donné, est-ce que ça c'est futur ou passé? Hein? Comme sa divine puissance, croyez-vous que Dieu est puissant? comme sa divine puissance nous a donné tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété. Vous voyez-vous, la semence est déjà plantée. Tout ce qui contribue à un pommier est dans la semence. Tout ce qui contribue à une vie chrétienne est déjà dans votre cœur. Pas besoin de demander, il suffit, « Oh Seigneur, aide-moi, donne-moi la patience. » La patience est déjà en vous. « Oh Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. » La maîtrise de soi est déjà en vous. Amen. Mais c'est sous forme de semence aujourd'hui peut-être. Vous avez besoin d'arroser, de développer, de cultiver ces choses. Mais vous n'avez pas besoin de les recevoir de nouveau. C'est déjà là, c'est en vous. Vous avez besoin de cette révélation que tous ceux qui contribuent, tout, sans exception, tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété, vous voulez vivre une vie pieuse, c'est-à-dire sainte, agréable à Dieu, vous voulez que les gens soient capables de distinguer tout de suite, « Ah, ça c'est pas un girafe, ça c'est pas un zèbre, ça, c'est pas un pécheur, c'est un chrétien. » Amen. Si vous voulez que les gens soient capables de reconnaître tout de suite que vous êtes enfant de Dieu, il faut que ces choses soient développées. C'est pourquoi on continue. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, afin que par quoi? Par les promesses, vous deveniez quoi? Participants de quoi? De la nature divine. On parle pas du futur. On parle pas du ciel. On parle d'ici sur la terre. Vous pouvez devenir participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Combien de vous ça vous tente de participer à la nature divine? De marcher sur la terre comme Dieu marche. Comme Jésus a marché. C'est ça? C'est biblique? Il dit, il faut, ceux qui confessent Jésus doivent vivre comme Jésus a vécu. L'apôtre Jean l'a dit, n'est-ce pas? Il faut qu'on vive comme Jésus. Pour vivre comme Jésus, il faut saisir la vie éternelle qui est en nous. Il faut cultiver la nature divine. Il faut arroser la semence qui est dans notre cœur. Et toutes les caractéristiques de Jésus, il faut les cultiver. Amen. Alléluia. Alléluia. Je viens de vous donner une bonne nouvelle, que Dieu a déjà planté. Si vous avez confessé Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, si vous êtes vraiment né de nouveau, vous êtes déjà une nouvelle création et Dieu lui-même a planté la semence dans votre cœur. Il vous a donné. Pas, il va pas, j'ai pas dit qu'il va vous donner, il vous a donné, déjà, c'est déjà fait, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Par sa grande puissance, il l'a fait. Wow! C'est-à-dire que j'ai plus d'excuses. Je peux, si je veux, développer ces choses et grandir dans ces choses. Si je veux, je peux manifester toutes les caractéristiques de Jésus-Christ ici dans ma vie. Amen. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, car Dieu est amour, je suis né de Dieu et la semence de Dieu demeure en moi. C'est pourquoi je ne peux pas pratiquer le péché. Je ne peux plus pratiquer le péché parce que la semence de Dieu demeure en moi. Moi, je ne sais pas, hein, mais moi, ça m'encourage. Et vous? Alléluia! En fait, si vous lisez plus tard à la maison le restant de 2 Pierre chapitre 1, vous allez voir que si, la Bible dit que si ces choses sont en vous avec abondance, vous serez ni stérile, ni loisif. Et en fait, la Bible dit que vous ne broncherez plus jamais, vous ne tomberez jamais plus. C'est-à-dire que qu'est-ce que je dis aujourd'hui? C'est la clé d'arriver à une place dans votre marche avec le Seigneur où vous ne tombez plus dans le péché. Et il est possible d'arriver à cette place où vous ne tombez plus. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alléluia! Wouh! Alléluia! Gloire à Dieu! Donc, deuxième page de vos notes. On va juste terminer avec quelques conseils pratiques. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si la nature de Dieu est en nous, si je suis une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que je peux faire pour participer à cette nature divine? Qu'est-ce que je peux faire pour saisir cette nature divine et l'amour de Dieu qui est répandu dans mon cœur? Qu'est-ce que je peux faire? Et on va regarder, on va voir en Éphésiens 4, 20, quatre conseils pratiques de qu'est-ce qu'on peut faire pour participer à la nature divine. Est-ce que ça vous intéresse? Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit. Instruit à faire quoi? Verset 22, à vous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. On voit, et je l'ai mis en gras, quatre choses qu'on peut faire pour saisir la réalité de notre nouvelle nature. Si nous sommes vraiment enfants de Dieu, et la semence de Dieu demeure en nous, il faut faire quelque chose pour cultiver cette semence. Et là, on a un exemple, une illustration que Dieu nous donne. Il dit même qu'il faut se dépouiller de notre vieil homme et revêtir Jésus-Christ, l'image de Jésus. On est créé dans l'image de Jésus. Une chose que je suis vraiment fort là-dessus, dans le sens que j'aime pas ça entendre les personnes qui me disent « Mais moi, j'ai tel, tel, tel problème, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis fait de même. » Combien de nous avons dit les choses comme ça? « Oh, ben, tu sais, hein, tu vas prendre moi comme je suis parce que je suis fait de même. » Ça, c'est pas la vérité. La vérité, c'est que vous étiez fait de même quand vous étiez enfant du diable. Mais aujourd'hui, vous êtes une nouvelle création et vous êtes créé et fait à l'image de Dieu. Maintenant, vous avez le caractère de Jésus-Christ à l'intérieur de vous, donc vous devriez dire, je suis fait comme lui. Tel le Père, tel le Fils. N'est-ce pas? Les personnes me disent souvent à propos de mes enfants, oh, mais ton fils, il te ressemble beaucoup. Ton fils, il te ressemble beaucoup. Moi, je veux que notre Père au ciel, il entend souvent. Hey, tu sais, ton fils, il te ressemble beaucoup, hein? Alléluia! Et spirituellement, c'est déjà le cas. Mais au niveau de notre âme et au niveau de nos actions, c'est pas toujours le cas. Vous êtes d'accord? Mais moi, je veux arriver là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va prendre cela. Et là, on voit que même si la nature de Christ est en nous, il faut prendre cette nature comme on prend un vêtement. Comme on va s'habiller à tous les matins. Il faut s'habiller de la nature de Christ aussi. Donc, on va parler de ça. Quatre choses. Mais premièrement, avant de commencer avec les quatre choses, sachez que Dieu a placé les nouvelles choses dans votre garde-robe spirituelle. Imaginez, mesdames, je pense que ça va vous plaire. L'idée que vous vous réveillez demain matin et vous ouvrez votre garde-robe et toutes les anciennes choses sont disparues et c'est toutes les choses flambant neuves. Des choses qui d'une grande valeur, hein? Des choses que vous n'achèterez jamais, vous n'aurez jamais les moyens d'acheter vous-même. Imaginez ça. Est-ce que ça vous ferait plaisir? Vous ouvrez la garde-robe, il y a 100 paires de souliers, mesdames. 5 teintes de chaque couleur. Ouais, c'est ça. Bon, ça va. Vous ouvrez la porte de garage et la remise et c'est plein de nouvelles choses. Sachez que Dieu, par son amour et par sa grâce, il a déjà placé en nous, dans notre garde-robe spirituelle, c'est tout plein de nouvelles choses. Vous n'avez pas besoin d'aller magasiner, c'est déjà là. Pas besoin de demander, Seigneur, est-ce que je peux avoir un peu d'argent, j'ai besoin d'une nouvelle robe, c'est déjà là. Tout est payé. Tout est déjà mis dans la garde-robe, sur les supports, c'est tout organisé par couleur et c'est bien. Et c'est votre, ça vous va, c'est votre taille. Amen? Donc je veux que vous ayez cette image, c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous dans l'esprit. Il a enlevé le cœur de pierre, il a mis en nous un cœur de chair, il a planté la semence de son Fils dans notre cœur. Et comme Romains 5:5 dit, « Or l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc Dieu a ouvert la garde-robe de notre cœur, il a enlevé les vieilles affaires, il a mis en nous un cœur nouveau. Il a mis en nous l'amour de Dieu, la nature de Jésus-Christ. La nature de Dieu. Amen. La semence de Dieu est plantée dans notre cœur. C'est déjà là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire si Si la garde-robe est pleine, c'est bien. Mais si on garde les portes de la garde-robe fermées, si on change jamais de vêtements, qu'est-ce que ça donne d'avoir une garde-robe pleine de nouvelles choses? Si on porte toujours la même chemise trouée et les mêmes souliers troués aussi. Regardons. Numéro 1. Prenez une décision d'enlever les vieilles choses. Les vieilles choses. Il faut se déshabiller avant de mettre les nouvelles choses, n'est-ce pas? À moins que vous soyez comme un de mes enfants une fois. Je ne devrais pas dire ça, mais... Il était pressé, donc il court pour se préparer pour aller à l'école. Il arrive à l'école et puis il enlève son manteau. C'est en hiver. Il va pour enlever les salopettes et puis il voit qu'il est toujours dans son pyjama. Donc il a gardé les salopettes toute la journée. Ça arrive, hein? Oups! Vous savez, non, l'idéal, c'est qu'on enlève qu'est-ce qu'on porte déjà, qui est peut-être sale ou qui est vieux, qui n'est vraiment pas qu'est-ce qu'on veut porter. Il faut prendre une décision. Je vais enlever ça afin de pouvoir mettre quelque chose de propre, quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la première chose. Et c'est important parce que il y a certaines personnes qui aiment leurs vieilles choses. Mais c'est confortable. Hein, et souvent, les mesdames, vous allez peut-être essayer de convaincre monsieur, mais est-ce qu'on peut changer de chemise? Ou des fois, c'est une casquette ou quelque chose qu'il aime porter depuis 15 ans. Ouais, mais hey, ça, c'est ma casquette. Hein? C'est mon jacket, c'est ma chemise. Je suis confortable, je suis bien là-dedans. Et des fois, on est comme ça avec les péchés aussi. Je suis habitué, ça fait des années que je fais ça. Je suis bien là-dedans. Mais non, si vous voulez avoir la joie de porter de nouvelles choses, il faut enlever les vieilles. On ne peut pas porter des nouveaux souliers si on garde les vieilles. Vous êtes d'accord? Ça ne marche pas. Les souliers ne marchent pas. À moins que vous mettez vos pieds dedans. Il faut enlever les vieux avant. Colossiens 3, 8. Mais maintenant, pas dans deux semaines, pas dans deux ans, pas dans deux décennies, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Donc, prenez une décision. Premièrement, que ça va faire, je suis tanné, je ne veux plus porter ça. Si vous avez une nature autrefois qui était plus stressée ou brute ou sec avec tout le monde, prenez une décision de qualité que, Seigneur, avec ton aide, je vais me dépouiller de cela. Je vais enlever cette mauvaise affaire pour pouvoir avoir de la place pour la nouvelle chose. Amen. Numéro 2. Donc, vous prenez la décision d'enlever les vieilles choses. Mais deuxièmement, ouvrez la garde-robe de la parole afin de choisir ce que vous allez porter chaque jour. Avez-vous remarqué que d'habitude, il faut changer les vêtements tous les jours? D'habitude, hein? Encore des fois, il faut insister avec un couple de mes jeunes garçons que non, vous ne poussez pas dans les jeans, il faut mettre un pyjama, hein? Vous ne connaissez pas ça, hein? Moi, je sais que j'essaie la même chose des fois quand j'étais jeune. Hein? C'est plus pratique. On se couche dans nos vêtements. Quand on se lève le matin, on est déjà prêt à aller à l'école. Hein? Non, non, non. Parce que ça, c'est sale. On va mettre ça. On va laver ça. Tu vas mettre quelque chose de propre à tous les jours, n'est-ce pas? Et c'est la même chose. On devrait prendre le temps à tous les matins. Et pas trop de temps, mesdames. Souvent. Je parle souvent, hein? Moi, ça prend pas longtemps. Je peux choisir, bon, je vais porter ça. Mais des fois, hein, je ne sais pas si c'est tout le monde, mais des fois, qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce que tu penses? Comme je dis à mon épouse, tu es belle n'importe quelle avis, donc mettre quelque chose, c'est pas grave. Hein? Vous avez un meilleur goût que moi. Hein? Vous connaissez pas cela, hein? Non. Mais ici, dans la parole de Dieu, c'est comme, ça nous montre, c'est comme un index de tout ce qui se trouve dans notre grande garde-robe spirituelle. Parce que Dieu a mis tellement d'affaires là-dedans, que ça prend un index pour trouver parce que c'est pas juste une garde-robe normale, comme Daniel a dit, c'est un garage. Donc, qu'est-ce que j'ai apporté? Oh, je vois ici que, quelque part dans le garage, j'ai un paire de souliers qui est bleu marin, avec les talons hauts. Pas pour moi, par exemple, pour mon épouse. Je savais même pas que j'avais ça. C'est où? Et je vais aller dans le garage. Je vais aller les chercher et les mettre. Savez-vous, c'est exactement qu'est-ce qui se passe spirituellement. Tu devrais ouvrir ta Bible. Regarde Galates chapitre 5. On va juste faire un essai ici. Je pense que c'est dans vos notes aussi. En Galates chapitre 5, on ouvre la garde-robe. L'index de notre garde-robe. On va voir qu'est-ce qui se trouve là-dedans. En Galates chapitre 5 et en verset 22, mais le fruit de l'esprit. Et vous savez qu'en grec, il n'y a pas majuscule et minuscule. Ici, c'est un E majuscule. Mais moi, je crois que, oui, c'est le fruit de le Saint-Esprit, mais c'est aussi le fruit de notre esprit qui est né de nouveau aussi. Le fruit de l'Esprit de Dieu, mais aussi mon esprit, parce que j'ai la même nature que lui. Amen. Si je plante un orange, je vais avoir quoi? Un orange. Si je plante une pomme, je vais avoir quoi? Hein? Une girafe va donner naissance à? Alors, donc, si Dieu a des enfants, qu'est-ce qu'ils vont avoir là? Le Père. Si Dieu donne naissance à quelque chose, ça va avoir la même nature que lui, n'est-ce pas? Donc, si le fruit de l'Esprit Saint, c'est le suivant, le fruit de mon esprit, c'est la même chose. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Bon, c'est parfait, hein? Je vais mettre un peu de paix comme pantalon, je vais mettre un peu d'amour comme chemise, je vais mettre la maîtrise de soi sur ma tête comme chapeau, vous comprenez? Habillez-vous à tous les jours avec la nature de Christ. Prenez une décision, regardez, fouillez dans votre garde-robe et voyez, je savais même pas que j'avais cette robe-là, je savais même pas que j'avais ce pantalon, je savais même pas que j'avais cette chemise, je savais même pas que j'avais l'amour de Dieu dans mon cœur. Je savais même pas que la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit, donc j'ai pas besoin de demander la maîtrise de soi, j'ai besoin de cultiver la maîtrise de soi qui est déjà en moi. Je savais pas que la patience est déjà en moi. Je savais pas, mais maintenant que je sais, je vais le porter. Amen. Et on se promène avec nos nouveaux habits spirituels. Donc, ouvrez la garde-robe, fouillez là-dedans, et choisissez qu'est-ce que vous allez porter. Une chose que j'ai remarquée, quand je me réveille le matin, j'ai besoin quand même de prendre une décision de m'habiller. C'est bizarre, je comprends pas, mais est-ce que vous avez remarqué la même chose? C'est que quand je me réveille, les vêtements qui se trouvent dans la garde-robe ne sortent pas de garde-robe automatiquement pour se mettre sur mon corps. Il faut que je prenne une décision d'aller chercher ces choses et les mettre. Et c'est exactement qu'est-ce qu'on voit en numéro 3 ici. C'est « Revêtez-vous des nouvelles choses en Christ. » Et là, il y a une erreur que j'ai oublié d'enlever la dernière partie de la phrase. Donc, enlever la vérité par la foi, mais « Revêtez-vous des nouvelles choses en Christ. » Prenez une décision de vous déshabiller spirituellement des vieilles choses. Cherchez dans la garde-robe et voir, découvrir qu'est-ce que vous êtes. Changez votre façon de penser. En fait, je dois reculer un peu dans vos notes. Il y avait une autre définition pour le mot nature dans le dictionnaire biblique qui disait que c'est un mode de pensée et d'action qui est devenu naturel par une longue habitude. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut que ça devienne un mode de pensée et naturel. Que marcher dans la patience, marcher dans l'amour, marcher et démontrer le caractère de Christ, ça devient naturel pour nous à cause d'une longue habitude. À tous les jours, pendant des années et des années, je fouille dans la garde-robe spirituelle et je vois qu'est-ce qui est à l'intérieur et je le mets. Amen. Donc, revêtez-vous des nouvelles choses en Christ. Regardons le verset Romains 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? C'est qu'il faut prendre une décision de saisir qu'est-ce qui est déjà dans notre cœur et le mettre à l'extérieur. Et en même temps, la parole de Dieu dit, ne fais pas des provisions pour la chair. C'est-à-dire que si je nourris mon esprit avec la parole de Dieu, en méditant les bonnes choses, et je vois dans la parole de Dieu qui je suis pour vrai, et je ne donne pas l'occasion à la chair de manger, ma chair va crever de faim. Amen? Comme Lester Sumrall a toujours dit, nourrissez votre foi et laissez crever de faim votre chair. Donc, faites attention à ce que vous regardez, qu'est-ce que vous écoutez. Faites attention, nourrissez pas votre chair, mais nourrissez votre esprit. Donc, regardons bien. Ayant revêtu, Colossiens 3, 10, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. Donc, numéro 1 encore, prenez une décision d'enlever les vieilles choses. Numéro 2, ouvrez la garde-robe de la parole afin de choisir qu'est-ce que vous allez porter chaque jour. Numéro 3, revêtez-vous des nouvelles choses en Christ. Et numéro 4, apprendre à parler selon la vérité. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a vu en Éphésiens 4, ici, verset 25. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Pourquoi est-ce que cela va de pair avec ce message? C'est quoi l'importance de parler selon la vérité? N'est-ce pas le sujet de la nature de Christ et comment se revêtir de la nature de Dieu? Comment se déshabiller des vieilles choses? Comment fuir et trouver qui nous sommes pour vrai et revêtir les choses en Christ? Pourquoi est-ce que Dieu dit ici, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité? Parce que une des meilleures façons de vous habiller, c'est avec votre bouche. Vous mettez vos habits spirituels avec votre bouche. Est-ce que vous me suivez? Comment? Qu'est-ce que vous voulez dire? On dit la vérité. On ne parle pas des faits, on parle de la vérité. Le fait, c'est peut-être, cette semaine, vous avez manqué la patience dans votre comportement. Mais la vérité, c'est que l'amour est patient et l'amour de Dieu est répandu dans votre cœur, donc vous êtes patient. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est, il faut prendre une décision de parler selon la vérité, pas juste dire les faits. Pas dire toujours, ah, oh, mais moi, je manque de patience. Moi, je suis fait de même. Moi, je suis quelqu'un, je pète toujours la coche. Oh, moi, j'ai toujours de la misère à garder le sang froid. Oh, dis pas ça. Ça, c'est qui vous étiez autrefois. Vous avez toujours une tendance vers cela dans votre corps physique. Mais, si vous pouvez fuir dans la parole de Dieu et voir, non, l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur, l'amour est patient, je suis né de Dieu, la semence de Dieu demeure en moi, donc je peux dire avec honnêteté, je suis un homme patient. Regardons en Corinthiens chapitre 13. On va finir avec ceci aujourd'hui. Dans vos notes, il y avait Romains 4, 17 qui disait, selon qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous savez que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. On va le dire ensemble. J'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Ça, c'est comme Dieu. Ça, c'est la nature de Dieu. C'est comme ça qu'il fonctionne. Comme on a déjà dit la semaine passée, il appelait Abraham, père d'une grande nation. Et Abraham a fait la confession tous les jours. Salut, je suis le père d'une grande nation. Salut, je suis le père d'une grande nation. Pendant 20 ans ou quelque chose, il a dit, je suis le père d'une grande nation, même s'il n'avait pas d'enfant. Oh, mais Abraham, tu mens. Non, je dis la vérité. Le fait, c'est que je n'ai pas d'enfant avec Sarah. Mais la vérité, c'est que je suis le père d'une grande nation. Le fait, c'est peut-être tu as perdu ton sang-froid cette semaine, mais la vérité, c'est que la patience est dans ton cœur et tu es patient dans ton homme intérieur. Et c'est là où on a besoin de dire la vérité. On renonce au mensonge. On ne laisse pas le diable dire, mais tu vois, tu es comme ça, tu as toujours été comme ça, tu seras toujours comme ça. Non, tu dis, non, je suis une nouvelle création. La semence est plantée dans mon cœur. La semence de Dieu demeure en moi. Je ne pratique plus le péché. Je ne peux pas pratiquer le péché. C'est impossible parce que je suis enfant de Dieu. Le diable n'est plus mon père, c'est Dieu qui est mon père. T'es le Père, t'es le Fils. Je suis enfant de Dieu. Dieu est amour. Je suis un enfant d'amour. L'amour de Dieu est répandu dans mon cœur. Je suis patient. Je suis plein de bonté. Je suis fidèle. Je crois le meilleur. Comme 1 Corinthiens 13, 4 dit ici, prenez ce verset. C'est, je pense que c'est sous numéro 2. L'amour est patient. Donc, tu peux dire, je suis patient. On va le dire ensemble. Je suis patient. Je suis serviable. Je suis pas envieux. Je ne me vante pas. Je ne manque pas d'orgueil. Je ne fais rien de malhonnête. Je ne cherche pas mon intérêt. Je ne mérite pas. Je ne médite pas le mal. Je ne me réjouis pas de l'injustice. Mais je me réjouis de la vérité. Je pardonne tout. Je crois tout. J'espère tout. Je supporte tout. Ça, c'est un bon exercice. Savez-vous qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Si vous faites cela, et vous dites ça avec votre bouche, et vous le croyez dans votre cœur, ça, c'est la clé. Il faut le croire. Chaque fois que vous faites cela, vous êtes en train de vous habiller. Amen? On a les résultats, comme il va dire, de notre confession. Donc, à chaque fois que vous faites ça, donc, c'est pas assez juste de vous essayer de vous dépouiller des vieilles choses, de vous déshabiller de la colère, de l'animosité, de toutes ces choses. Oh non, je vais jamais plus faire cela. Ça, c'est la première étape, de vous déshabiller de ces vieilles choses. Mais vous voulez pas vous promener tout nu non plus. Il faut prendre le temps de mettre les nouvelles choses. Et on met les choses, on s'habille avec notre bouche. On déclare qu'est-ce que dit la parole de Dieu et on agit en conséquence. Parle selon la vérité. Dis qu'est-ce que Dieu dit. Dis la même chose que Dieu dit. Et ça va changer votre façon de penser et ça va changer éventuellement votre façon d'agir. Amen? Est-ce que vous avez appris quelque chose ce matin? Alléluia! Les réalités de la nouvelle création. On va se lever debout. Jean-Charles va venir et on va prier. Mais attention, avertissement, je vous promets que si vous quittez aujourd'hui et vous dites, « Ah, ça c'était intéressant, mais vous ne le faites pas, ça ne changerait rien dans votre vie. » Mais si vous prendrez le pain à tous les jours de dire, « Oui, je veux me dépouiller de ces vieilles choses, je veux fouiller dans la garde-robe, je veux mettre Christ, et je veux dire la vérité, pas juste les faits. Je vais parler et appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà dans ma vie. Si vous le faites, ça va changer votre vie. Vous ne serez pas la même personne. Alléluia. Combien de vous voulez le faire pour vrai? Est-ce que vous comprenez le principe? Ce n'est pas un mystère. C'est-à-dire qu'à tous les jours, vous prenez votre Bible et vous fouillez, vous trouvez qui vous êtes et vous déclarez cela. Vous méditez cela. Et vous vivez dans la lumière. Merci Père Céleste, au nom de Jésus, que ta parole dit que ceux qui sont en Jésus-Christ sont des nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur, qu'on peut se revêtir de Jésus-Christ et de ne pas faire une provision pour la chair. On peut, Seigneur, démontrer qu'il y a une différence, une distinction flagrante entre nous, les enfants de Dieu, et ceux qui sont encore les enfants du diable. Seigneur, merci que nous avons l'amour pour Père. Et la semence d'amour est déjà répandue dans notre cœur par l'Esprit Saint. Donne-nous une révélation dans notre cœur de cette vérité au nom de Jésus. Avec tous les yeux fermés, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous n'avez pas encore l'assurance d'avoir donné votre vie à Jésus. Vous n'êtes pas sûr d'être un Jésus-Christ. Peut-être vous n'avez jamais été transporté du royaume des ténèbres. Et aujourd'hui, si vous êtes honnête avec vous-même, même si vous ne le saviez pas, vous êtes quand même enfant du diable aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. S'il y a quelqu'un ici ce matin, cela ne veut pas dire que vous êtes une personne plus méchante que les autres. Cela veut dire que vous êtes dans le même bateau où se trouvait chacun de nous ici. Autrefois, moi aussi, je suis pasteur aujourd'hui, je suis enfant de Dieu aujourd'hui, mais autrefois, j'étais enfant du diable. Autrefois, j'avais une nature pécheresse dans mon cœur, mais aujourd'hui, je suis une nouvelle création. Aujourd'hui, si dans votre cœur, vous savez que vous avez besoin de donner votre vie à Jésus, vous voulez recevoir une vie nouvelle, vous voulez devenir une nouvelle création, vous voulez que Dieu soit votre Père, et vous voulez naître de nouveau, j'aimerais juste vous inviter maintenant à lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dirait oui, prie pour moi, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Peut-être tout le monde ici l'a déjà fait, mais sinon, ne soyez pas gênés. Jésus a dit que si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Il y a une personne. Alléluia. Alléluia. On va attendre une minute. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous voulez vraiment passer de la mort à la vie. Alléluia. 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 Donc, on va prier ensemble. Et la personne qui a levé la main, on veut vraiment que tu pries, Seigneur, cette prière au Seigneur avec sincérité du cœur. Alléluia. Alléluia. On va prier cette prière. Merci, Père, pour ton amour. Merci pour Jésus qui est mort sur la croix, qui a versé son sang pour me sauver. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois de mon cœur qu'il est ressuscité. Et aujourd'hui, je veux passer de la mort à la vie. Merci pour une nouvelle nature. Merci que je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont déjà passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. La semence de Jésus-Christ, la semence de Dieu demeure dans mon cœur. La nature de Dieu, la nature divine est maintenant ma nature. Et je vais participer à la nature divine en me dépouillant des vieilles choses et en cherchant dans la parole toutes les choses que tu m'as données et en me revêtant de l'homme nouveau. Merci Seigneur. Je parle selon la vérité. Je suis ton enfant. Je suis une nouvelle création. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour cette personne ce matin? Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.